par le désir de posséder un psautier à lui et s'en ouvrit à frère François. Le supérieur n'y était pas opposé, mais le jeune frère voulait le tenir de François lui-même. Il tombait mal. François n'aimait pas qu'on fût contaminé par l'amour des livres. Il fallait laisser cela aux savants, aux clergés et aux ordres à bibliothèque, comme les bénédictins. Un vrai frère mineur n'avait que faire d'un livre personnel. Suffisait à tous l'évangile de la communauté dont on donnait lecture à heure fixe. Mais le jeune frère revenait à la charge. Un jour qu'il était assis près du feu avec François, il risqua de nouveau sa demande. François bougonna. « Un psautier d'abord, et ensuite il te faudra un bréviaire. Et après cela, tu t'assoiras dans une chaire et tu diras « Frère, va me chercher mon bréviaire !» Et par un de ces gestes inattendus qui le caractérisaient, il saisit une poignée de cendre froide, en frotta le crâne du jeune frère et s'écria en riant « Un bréviaire ! Un bréviaire ! Voilà le bréviaire !» Et le garçon se retira tout honteux. Mais le récit ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, François rencontra sur une route le frère aux instincts de bibliophile. Le croira-t-on ? Il reparla de son psautier et de la permission du ministre. Cette fois, François l'envoya promener. « Va et fais ce que ton ministre te dira. » Le frère s'en alla, laissant François seul sur la route, un François perplexe, et qui tout à coup cria « Attends, frère, attends !» L'ayant rejoint, il lui demanda d'aller avec lui à l'endroit où la première fois il avait été question du psautier. Arrivé là, François se mit à genoux devant le frère et lui demanda pardon. « Mea culpa, » dit-il. Mais il ajouta qu'il n'était pas permis à un frère de rien posséder que sa tunique, sa corde, son caleçon, et quand il le fallait, pour cause de maladie, des chaussures. Le refus demeurait, mais le ton était autre. On n'entendit plus parler du bienheureux psautier. À mesure qu'on avance dans l'histoire de François, sa tendance à nous échapper se confirme. Sa simplicité même le dérobe à notre désir de le comprendre. On songe à ces creux de rochers où il allait parfois chercher refuge à des hauteurs vertigineuses. Ses réactions sont déconcertantes, et jusqu'à la fin, il restera l'homme des contrastes. On le suit comme on peut. L'installation d'une bibliothèque franciscaine à Bologne le met en rage. Est-ce à dire qu'il hait le savoir ? Loin de là, il l'admire chez les autres, mais n'en veut pas chez lui. Il reconnaît qu'il est sans lettres, mais il sait d'instinct que cette ignorance toute relative préserve en lui et chez ceux qui le suivront quelque chose de plus précieux que la science des hommes, à savoir le message évangélique dans toute sa pureté, l'état d'enfance spirituelle qui ouvre le royaume des cieux. Comme saint Paul, il ne sait que le Christ, supérieur à toute science humaine. Cet amour du non-savoir est d'autant plus remarquable qu'il se manifeste dans une Europe en pleine évolution intellectuelle. L'université de Bologne est la plus ancienne et la plus réputée, mais d'autres voient le jour en cette année 1222. Frédéric II fonde l'université de Naples et l'école de médecine de Salerne. Il fait traduire Avicenne et Averroès et d'autres textes islamiques sur l'astronomie, l'anatomie et la médecine générale. C'était le premier essai de rapport sérieux entre le monde chrétien et l'islam. Un effort analogue de compréhension avait lieu avec les juifs de Cordoue et de Séville. En Italie, après Naples, se fonde l'université de Padoue. Les institutions savantes se multiplient. Tout peut en sortir. C'est entre leurs murs qu'auront lieu les débats théologiques qui jadis se déroulaient sur la place et dans les rues. François n'est pas long à flairer le danger de la scolastique. Dans les vastes mouvements d'idées qui remuent la société, il reste à part, fidèle à sa vocation de charité, seul. Qu'est-il au juste ? On le regarde et on l'écoute avec étonnement. D'où vient que sa voix apporte la joie dans le cœur le plus troublé ? Son sourire est celui-là même de l'amour. Les phrases les plus familières qui sortent de sa bouche raniment la foi et réconcilient l'individu avec lui-même, l'individu, même perdu dans la foule.